Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine et pour la première fois par Midia Portis Guérin avec Jean-Sébastien Rago à la technique et préparé comme toujours par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron, Adèle Van Rett. Adèle, qui recevra tout à l'heure l'historien François Doss à 10h50 pour évoquer son dernier livre intitulé « Renaissance de l'événement » paru aux presses universitaires de France. François Doss, qui était déjà venu au Nouveau Chemin, parler de l'événement chez Ricoeur. Toujours à la pointe, non pas de l'actualité, mais du présent, ce qui n'est pas la même chose, les Nouveaux Chemins se proposent de vous promener toute la semaine dans l'œuvre ahurissante du grand Leibniz, le philosophe, géologue, philologue, géographe, linguiste, sinologue, logicien, juriste, métaphysicien, généalogiste, politique, mathématicien, diplomate, bibliothécaire et un peu courtisan Leibniz, qui n'a pas 4 ans quand il apprend à jouer aux échecs et pas encore 15 ans quand il finit enfin par entrer à l'université. Demain mardi, Jean-Baptiste Rosy vous parlera du merveilleux discours de métaphysique. Mercredi, Michel Fichan, qui la connaît comme sa poche, vous racontera la monadologie. Jeudi, Paul Ratteau vous parlera des essais de Théodicée. Et nous finirons la semaine en compagnie de Raphaël Andreau, qui reviendra pour vous sur la question de la vie dans un système enchanté. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant, en direct, c'est le philosophe Élie Düring qui est l'invité des chemins et à qui revient la lourde tâche, lourdissime, de commencer la semaine par sa face nord, la plus ardue, un livre non pas de Leibniz lui-même mais de Gilles Deleuze sur Leibniz, l'interprétation peut-être la plus stimulante et la plus originale d'un penseur qui ne l'est pas moins, un classique de la difficulté, intitulé Le Pli, disponible aux éditions de Minuit. Le Pli est un livre tellement difficile, chers auditeurs, tellement complexe qu'il frise la poésie, écoutez plutôt et faute de tout comprendre, laissez-vous faire.
Flexible ou élastique a encore des parties cohérentes qui forment un pli, si bien qu'elles ne se séparent pas en parties de parties, mais plutôt se divisent à l'infini en plis de plus en plus petits qui gardent toujours une certaine cohésion. Aussi, le labyrinthe du continu n'est pas une ligne qui se dissoudrait en points indépendants comme le sable fluide en grains, mais comme une étoffe ou une feuille de papier qui se divise en plis à l'infini ou se décompose en mouvements courbes, chacun déterminé par l'entourage consistant ou conspirant. La division du continu ne doit pas être considérée comme celle du sable en grains, mais comme celle d'une feuille de papier ou d'une tunique en plis, de telle façon qu'il puisse y avoir une infinité de plis, les uns plus petits que les autres, sans que le corps se dissolve jamais en points ou minima. Toujours un pli dans le pli, comme une caverne dans la caverne. L'unité de matière, le plus petit élément de labyrinthe, est le pli. Non pas le point, qui n'est jamais une partie, mais une simple extrémité de la ligne.
Bonjour Élie Düring.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance, de nouveau. Élie Düring, est-ce que vous aimez l'origami ?
J'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup savoir le pratiquer.
Mais oui, l'origami, la technique du pliage, l'art nippon du pliage, dont Deleuze s'est inspiré pour comprendre la métaphysique de Leibniz, en expliquant notamment que l'unité de matière, le plus petit élément du labyrinthe, on verra ce que c'est le pli, et non pas le point. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et en quoi est-ce précisément novateur pour comprendre ce que Leibniz veut dire?
Oui, le pli qui donne ce titre, son titre à ce livre est en effet assez aride, en tout cas d'une densité assez ébouriffante. Le pli, c'est le fil conducteur de la lecture deleuzienne de Leibniz. Et en effet, la première détermination un peu négative serait de simplement l'opposer au point. Le point, c'est ce qui commence, ce qui termine un parcours. l'extrémité ou la limite du segment. Le pli, ce serait une bonne façon de l'aborder, c'est ce qu'on attrape au milieu. C'est ce qui se passe entre.
Le point, c'est surtout une contradiction mathématique qu'on apprend en sixième. Hein. Une droite est une suite de points et pourtant un point n'a pas de quantité.
Voilà, donc c'est déjà la racine de toutes les contradictions, de tous les paradoxes. Et le pli, d'une certaine façon, est une manière pour Leibniz de contourner ces difficultés classiques en philosophie et plus particulièrement en philosophie des mathématiques. On ne va pas développer ça, mais il faut savoir aussi que, ça a été rappelé au début, Leibniz est un grand mathématicien qui a très largement contribué à l'invention de cette beauté mathématique qui s'appelle le calcul différentiel. Et la différentielle, c'est une des déterminations possibles du pli dans le domaine mathématique, c'est-à-dire l'idée d'un, non pas d'un infiniment petit, ce qui nous reconduirait au point comme espèce de limite imaginaire d'une décomposition du tout en partie. Non, la différentielle, c'est l'idée d'un rapport évanouissant, ou plus exactement, un rapport entre des termes qui tendent tous les deux en même temps vers zéro. Et donc, à la limite, on aurait 0 sur 0, ce qui est une absurdité mathématique, mais précisément, le concept de différentiel permet de penser ça, c'est-à-dire une notion dynamique. Alors voilà, ça, ce serait déjà une direction, mais bon, ça ne parlera qu'à ceux qui ont de bons souvenirs de leur cours de mathématiques ou qui eux-mêmes la pratiquent encore.
Ils sont disons, certainement majoritaires parmi nos auditeurs, mais ouais. C'est pas tout le monde. Allez-y, Elie Durin.
Mais on va bifurquer, comme Leibniz le fait souvent, et Deleuze plus encore, on va bifurquer et peut-être se raccorder à des exemples, des déterminations plus concrètes du pli. On parlait de l'origami, vous évoquiez l'origami, l'art du pliage, en effet. Je ne peux pas résister à l'envie de rappeler cette anecdote qui a beaucoup amusé Deleuze, c'est qu'après la publication du pli, il a reçu une lettre d'un surfeur. Alors c'est une autre manière de prendre les choses par le milieu, qui se reconnaissait parfaitement, qui reconnaissait sa pratique et son désir de surfeur dans les descriptions que Deleuze donnait du pli. Effectivement, prendre la vague par le milieu, intercepter un mouvement, etc. Bon, ça avait beaucoup fait rire Deleuze. Mais disons, bon, le pli, on parlait, on parlait de ce livre, donc le pli qui a pour sous-titre Leibniz et le baroque. On peut le prendre par là, finalement. L'art du baroque, l'art baroque, c'est l'art du pli. Donc, on peut penser aux arts plastiques. C'est un terme qui est bien choisi pour Leibniz, puisqu'il est beaucoup question des forces plastiques, de la plasticité qui caractérise la texture du monde. Donc la tunique, on l'entendait dans le texte, la tunique plissée à l'infini. On pense au Bernin, au statut du Bernin. Bon. On peut le prendre du côté de l'architecture. Le livre de Deleuze s'ouvre bizarrement sur un chapitre sur les deux étages, la maison aux deux étages. Il y a le rez-de-chaussée qui s'étale horizontalement, qui s'avance aussi avec l'escalier. Ça, c'est typique du baroque, qui a l'air de couler comme ça, comme une sorte de texture fluide. Et puis, le premier étage, qui, lui, s'élève verticalement. Et donc, en fait, c'est une sorte d'analogie pour espèce de dualité un peu complexe l'intériorité subjective des monades, spirituelle des monades, et puis de la variété extensive du monde.
Monade, alors venons-en à l'essentiel ou au primordial chez Leibniz, qui est un primordial tardif d'ailleurs, parce que c'est un mot qu'il invente tardivement, hein, après le discours de métaphysique, dans la monadologie, un texte du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, écrit en français par Leibniz, et sur lequel on reviendra en détail d'ailleurs mercredi prochain avec Michel Fichan. Ce qu'il appelle la monade, c'est, j'allais dire, pour le dire rapidement, et on en reparlera d'ailleurs mercredi, hein, l'équivalent de l'atome, au fond, sauf que c'est pas matériel.
Et que c'est pas un point.
Et que ça n'est pas un point, précisément. Mais c'est le paradoxe de l'idée que, toute réalité étant multiple, il y a au principe de ce multiple une simplicité qui est analytiquement requise par le multiple. Il n'y a pas de multiple sans simple. Il faut penser le simple problème, voilà. C'est que la matière étant divisible à l'infini, cette simplicité, cette unité primordiale, ne peut pas être matérielle, et c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle la monade, Elie Durin.
Oui, c'est un simple. Je pense que c'est une meilleure voie d'entrée que le point, même si Leibniz ne cesse de dire qu'il y a des analogies, des correspondances à la fois exactes et trop formelles entre le point mathématique et ce point, ce qu'il appelle parfois le point métaphysique, la substance simple. Mais simple est un meilleur terme, puisqu'en fait, il permet de concilier ce qui est l'enjeu métaphysique de ce concept de monade, dont le terme est repris à une tradition néoplatonicienne, bon, peu importe, c'est de concilier, ou plus exactement, d'envelopper la multiplicité dans l'unité, de faire en sorte que le multiple soit en quelque sorte compliqué, impliqué dans l'unité. Bon, sans avoir à poser cette unité comme un plan transcendant qui transcenderait le monde.
C'est un absolument simple qui contient un univers.
Et il y en a une infinité de ces simples. Et l'univers, d'une certaine façon, n'est rien d'autre que ça. C'est ça qui devient compliqué, puisqu'il est bien question dès le départ de deux étages. Il y a le monde, il y a l'intériorité de la monade. Et Leibniz dit aussitôt, le monde, ça n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Là, qui... ça n'est rien d'autre que l'ensemble de ce qui est plié, impliqué, plissé dans l'intériorité des monades. Et là, on retrouve le concept du pli, puisque si la monade, est, cette simplicité métaphysique qu'est la monade, est pure intériorité, il faut aussitôt ajouter qu'elle est infiniment plissée, qu'elle a des replis à l'infini en elle-même qui constituent ses perceptions.
Dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant de déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leur petit logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Élie Düring est l'invité des Nouveaux Chemins ce lundi, au début d'une semaine sur Leibniz. Élie Düring, est-ce une façon correcte, peut-être imaginative, de comprendre Leibniz à partir, par exemple, de l'expérience proustienne de la Madeleine, qui prend l'exemple justement d'un papier qui se déploie à l'infini, qui se déploie comme ça indéfiniment? Est-ce qu'au fond, les jeux de la mémoire involontaire chez Proust, qui déplient une infinité de souvenirs à la faveur d'une sensation minuscule, ne correspond pas, n'est pas la version littéraire ou romanesque de ce que Leibniz enseigne quand il montre qu'il y a dans chaque monade absolument simple un univers?
Oui, je crois que c'est très juste, hein, ce texte de Proust. Proust, d'ailleurs, qui intervient souvent chez Deleuze, hein, il cite aussi la musique de Vinteuil, comme exemple de l'événement. Quoi, l'avènement de,
il parle aussi d'harmonie préétablie, voilà, qui est une expression leibnizienne.
Oui. Voilà, donc on reparlera peut-être de la musique. Mais pour revenir à Proust, en effet, je crois que c'est un très bon exemple. Si on le lisait leibniziennement, ce texte de Proust, eh bien, il faudrait en effet aller jusqu'à dire que c'est cet univers enveloppé, impliqué, plié, infiniment plié dans la tasse de thé, il était d'une certaine façon coprésent, coextensif à la conscience de Marcel. C'est pas des souvenirs archivés qui soudain seraient un petit peu ranimés comme des vieilles photos jaunies qu'on sort d'un tiroir. C'est l'idée que, en réalité, tout le passé est là, ce qui est aussi un thème très bergsonien. Le passé est coextensif au présent de la perception. Simplement, Bergson, il est à l'état d'implication. Voilà, il est enveloppé.
Pour Bergson, le passé n'est pas un stock. Hein. Le passé est réactualisé à chaque instant dans l'activité présente.
Voilà. Et pour Leibniz, il n'est pas davantage un stock. Le passé et d'une certaine façon l'avenir aussi, en quelque sorte préformé ou dessiné à titre de tendance, d'inflexion à chaque instant, tout ça en réalité coexiste de manière impliquée, involuée, enveloppée dans l'actualité, dans le présent de la monade et de ses perceptions. Simplement, tout à chaque instant n'est pas distingué, n'est pas également développé. Et ça, on revient au pli, c'est essentiel dans le pli. Un pli, c'est quoi? Bon, il suffit de prendre la tunique, on fait un pli. Le pli détermine non seulement un envers et un endroit, deux faces, deux régions, mais aussi plus spécialement, en jouant sur le clair et l'obscur, sur les ombres portées, une région claire et une région obscure. C'est comme ça que ça se passe dans le dessin, dans la peinture. Et Leibniz insiste beaucoup là-dessus. La monade, elle se définit, elle, on pourrait dire, elle s'individue, elle se singularise par la manière qu'elle a de développer, donc d'amener à la distinction et à la clarté certaines perceptions, et d'en maintenir d'autres à l'état involué, enveloppé, comme un clapotis de micro-perceptions. On se souvient peut-être de ce texte célèbre, des nouveaux essais sur le bruit de la mer ou le bruit du moulin. Bon, il y a plusieurs versions.
Ce que vous désignez comme texte, que vous rappelez ici comme texte, parce que, alors, d'abord, une petite parenthèse, c'est que l'œuvre de Leibniz est totalement éclatée. Alors, elle est parfois concentrée de façon fulgurante dans les 90 propositions et les 8 pages de la monadologie, ou les 15 pages selon les éditions, mais c'est une œuvre complètement éclatée, disparate, avec des livres parfois extraordinairement touffus, d'autres très denses, des textes qui sont toujours à traduire. Enfin, c'est une œuvre complètement éclatée et dans laquelle il faut donc, d'une certaine manière, se promener avec la liberté que donne la certitude qu'on ne pourra pas tout en lire, de toute façon.
Et on peut pas tout, c'est comme la monade, on peut pas tout déplier.
On peut pas tout déplier. En revanche, on peut le déplier à l'infini.
Ouais.
Et il y a, alors les nouveaux essais dont vous parlez, c'est une réponse aux essais sur l'entendement humain de John Locke. Leibniz écrit les nouveaux essais sur l'entendement humain, qu'il ne renoncera à publier d'ailleurs, parce que Locke mourra avant la publication de ces nouveaux essais. Et dans ce texte, il parle de ce qu'il appelle les petites perceptions, prenant l'exemple de la vague. Et c'est assez simple à comprendre. Quand une vague s'écrase sur nous, alors on peut la voir comme un ensemble homogène, on peut aussi la décomposer en milliards de milliards de gouttelettes et finalement se souvenir que d'une certaine manière, et c'est là que Leibniz est d'une complexité prodigieuse, nous entendons, nous percevons toutes les petites gouttelettes de la vague, même si nous négligeons de nous en apercevoir, Elie Düring.
Oui, on les perçoit en un sens bien particulier, c'est-à-dire qu'elles entrent, non pas dans un rapport de composition du type partie-tout, mais enfin elles entrent, dans la genèse de la perception claire et distinguée, plus ou moins remarquée, mais enfin remarquable, de fait, de la rumeur de la mer quand je suis au bord du rivage. Chacune des micro-perceptions, chaque bruit de chaque vaguelette, dit Leibniz, d'une certaine façon, entre et est activement présente dans ma perception globale, confuse, mais néanmoins perçue, quoi. Aperçu de la rumeur de la mer. Et alors, ce qui intéresse Leibniz, c'est de comprendre ce rapport d'implication qui n'est pas exactement un rapport de composition. Si c'est un rapport de composition, il faudrait dire qu'effectivement, chaque micro-perception est aperçue, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Et donc, on retrouverait le modèle mathématique, le modèle le plus clair pour lui, qui n'est pas forcément le plus facile à saisir philosophiquement, mais qui est le plus, disons, le plus exact, le plus précis, c'est le modèle de l'intégration. On intègre des différences évanouissantes. Et ça produit une sorte de une valeur globale, perceptive globale, qui est le bruit de la mer. Mais enfin, il faut bien que quelque part, en effet, le micro-bruit de chaque vague soit présent à ma conscience.
Et ça, c'est, et j'emploie à dessein cet adverbe, phénoménalement anti-cartésien. Puisque pour Descartes, au fond, toute vérité, disons le point de départ, le signe distinctif de la vérité, c'est l'idée claire et distincte. Il y a chez Leibniz la découverte ou la mise en évidence pré-freudienne, mais proprement psychanalytique déjà d'une certaine manière, que sous la clarté et la distinction de nos perceptions, il y a une infinité de petites perceptions confuses qui font de la volonté un phénomène beaucoup plus complexe que la simplicité qu'elle se donne à elle-même, ou qu'elle se montre à elle-même, ou qu'elle manifeste, qui font de la perception une aventure beaucoup plus subtile, une aventure d'ailleurs, dont pour la vivre, il suffirait de fermer les yeux.
Oui, en effet, il y a un concept d'inconscient, en effet.
Je crois même qu'il emploie ce mot, d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Les petites perceptions sont à la lettre inconscientes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inexistantes ou qu'elles n'entrent pas activement dans, disons, la genèse de nos perceptions conscientes. Bon. Alors, ce n'est pas exactement le même concept que celui de Freud, bien entendu, pour une raison aussi très importante, c'est que le statut du corps est tout à fait différent. On peut en parler une seconde, parce qu'il est directement lié au problème des petites perceptions. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps? C'est-à-dire le titre des chapitres du livre de Deleuze. Avoir un corps, c'est simplement avoir une... Ça veut dire ne pas exprimer les choses, ne pas exprimer le monde en toute clarté. Ça veut dire avoir une région obscure. Et en effet, c'est anti-cartésien, puisque Leibniz choisit de s'installer, de penser philosophiquement directement, de plein pied, dans le clair-obscur. on retrouverait des idées picturales.
C'est le même qui considère que le temps et l'espace sont des perceptions confuses. Hein. Le temps, voilà, et l'espace auxquels notre corps nous assigne consistent en des perceptions confuses, qui n'en sont pas moins des perceptions.
Voilà, alors il y a aussi ce qui est très intéressant, on pourrait dire qu'il y a toute une analytique du confus ou de l'obscur, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais chez Leibniz, il y a des notions mathématiques, par exemple, comme le temps et l'espace, mathématisables, mais qui sont en réalité trop générales pour être réellement saisies en vérité, et qui sont à cet égard confuses. Et puis il y a des choses dont il est difficile d'avoir une notion. On parlait des micro-perceptions, ça peut être aussi le vague gargouillis de mon estomac quand j'ai faim, qui elles sont alors irrémédiablement obscures, mais auxquelles malgré tout la mise essaye de donner un statut. Et pour revenir au corps, le corps, on pourrait dire, c'est rien d'autre que l'objectivation en quelque sorte, la position, faudrait même dire l'extraposition, puisqu'on a l'impression d'avoir un corps, l'impression que ce corps est d'enveloppe matérielle qu'on habite ou qu'on s'approprie.
Dire qu'on a un corps, voilà, c'est considéré comme Descartes que l'âme est dans le corps comme un pilote en son navire. Dire qu'on est un corps, c'est autre chose.
C'est autre chose. Mais être un corps, c'est quand même toujours avoir un corps d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce corps, il est moi d'une certaine façon. En tout cas, il est de moi. Il est en moi. Mais il est en moi, justement, cette part obscure, cette part confuse et obscure par laquelle, justement, je me rapporte au monde comme quelque chose dont je ne peux pas développer d'un coup, et en toute clarté, tous les replis. Le corps, ça désigne cette dimension enveloppée, involuée, confuse et obscure de mon expression du monde.
On a envisagé, on a parlé de Proust tout à l'heure, de la petite Madeleine, une façon de déplier le réel à la faveur d'une mémoire involontaire. L'épisode fameux de la Madeleine, on aurait pu en prendre d'autres évidemment, et revenir beaucoup d'ailleurs, peut-être ce qu'on fera dans les nouveaux chemins sur les liens qu'il peut y avoir entre Proust et Leibniz, la fécondité d'une lecture leibnizienne de la recherche du temps perdu. On va aller cette fois-ci maintenant d'un autre côté du leibnizianisme ou d'une postérité leibnizienne. Ça n'est plus Proust, c'est Mallarmé et c'est l'autre éventuel. Écoutez.
Ô rêveuse, pour que je plonge aux pures délices sans chemin, sache, par un subtil mensonge, garder mon aile dans ta main. Une fraîcheur de crépuscule te vient à chaque battement dont le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Vertige, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser qui, fou de n'être pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. Sens-tu le paradis farouche, ainsi qu'un rire enseveli, se couler du coin de ta bouche au fond de l'unanime pli? Le sceptre des rivages roses, stagnant sur les soirs d'or, ce lait, ce blanc vol fermé, que tu poses contre le feu d'un bracelet.
Élie Düring est l'invité des Nouveaux Chemins ce lundi, dans une semaine, sur Leibniz. C'est du pli que nous parlons, c'est le pli que nous déplions ce matin. Élie Düring, on vient d'entendre l'autre éventail de Mallarmé, lu par Anne Brissier, dont la voix va nous accompagner toute cette semaine sur Leibniz. Dans ce texte, Mallarmé parle de l'unanime pli. C'est bien vu, non?
Oui, c'est très bien vu. Et Mallarmé fait partie de ces références, disons, poétiques, littéraires que Deleuze mobilise tout au long du pli. On pourrait évoquer aussi Michaud, pli sur pli, pli selon pli. Et bien d'autres encore, de Borges à Maurice Leblanc. Référence plus inattendue, mais bon.
Arsène Lupin, donc.
Beaucoup de, effectivement, de variations littéraires sur un thème qui est celui de la prolifération. Disons d'un côté des plis et des replis d'un univers en flux et qui serait pure texture d'événement. Il y a un très beau chapitre sur l'événement qui mobilise la philosophie de Whitehead. Bon, Mallarmé serait de ce côté. Deleuze lui-même disait qui ne croyait pas aux choses. Je ne crois pas aux choses, il dit ça dans un entretien justement à propos de Leibniz et du pli. L'univers de Leibniz, c'est ce qu'il fascinait dans l'univers de Leibniz, c'est une texture d'événement. Et un événement, ce n'est pas une, une occurrence ponctuelle, au sens où on dit l'événement voilà, qui surgit à tel instant, à tel moment, comme ça, qui fait date. Non, l'événement, il est précédé par une rumeur sourde. Il est accompagné et prolongé par des échos à l'infini. Et Deleuze va même plus loin, il dit l'événement, il est en lui-même troué, il y a des temps morts au milieu de l'événement. Et ça, c'est une idée leibnizienne aussi, c'est que, en effet, les choses n'arrivent jamais ponctuellement à tel instant, elles s'enchaînent jamais sur le mode d'une poussière d'instant. Ce sont des vagues, ce sont des flux, ce sont des échos, ce sont des ombres portées qui se répondent à l'infini, autant qu'elle se plisse.
C'est intéressant que vous parliez d'événements. On continuera à en parler, d'ailleurs, dans les Nouveaux Chemins, dans le journal des Nouveaux Chemins, puisqu'on reçoit tout à l'heure François Dos, qui va penser, qui vient de sortir un livre sur l'événement, en qualité d'historien, oui. Spécialiste de Ricoeur, interprète, herméneute de l'herméneutique de Ricoeur. Et on reprendra, justement, probablement, enfin, Adèle le fera avec lui, Adèle Van Rhet, tout à l'heure, cette notion d'événement, cette fois-ci, vue d'un point de vue historique. Pour en revenir à Leibniz avec vous, Elie Düring, deux tensions peut-être. Vous avez parlé d'événements troués. De la même façon, on parle d'une simplicité qui en elle-même, quoique absolument simple, contient un univers. Il y a là beaucoup d'obscurité, beaucoup de choses difficiles à penser, aussi difficiles à penser que le réel est difficile à penser. Deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas chez Leibniz, juxtaposé finalement, le désir d'un monde diaphane ou l'intuition d'un monde absolument transparent, un monde divin, dont l'artisanat divin déploierait la transparence jusque dans ses replis les plus intimes, les plus infimes, et en même temps, donc, par-delà cette transparence ou en deçà de cette transparence, l'expérience corporelle d'une obscurité dont, au fond, on ne sort pas, même si en droit, on pourrait en sortir, mais il faudrait pour cela sortir de son corps. Ça, c'est la première question, transparence, obscurité. Deuxième tension chez Leibniz. Leibniz, vous avez parlé de calcul différentiel. Leibniz est un philosophe du discontinu, d'une matière constituée d'éléments insécables. Et en même temps, c'est le penseur de la vie, c'est le penseur de la mobilité, de la plasticité. Comment il concilie ces deux dimensions ?
Oui, alors, penseur du discontinu, je vois bien en quel sens on peut le qualifier de cette manière. En un autre sens, c'est aussi le penseur d'une continuité absolue, maximale, puisque au fond, et ça se raccorde au thème théologique que vous évoquiez, où est l'artisan de cette affaire ? Dieu, pour le nommer. Dieu choisit, enfin Dieu, en effet, fait passer dans l'actualité, donne existence à un monde, et la phrase est bien connue, qui est le meilleur des mondes possibles. Alors le meilleur, on peut commencer par dire que d'abord le meilleur, ça n'est pas l'idéal. Alors vous parliez d'un univers transparent, idéalement transparent, mais justement, il n'est pas tant que ça. C'est simplement le meilleur. C'est pas le monde où le bien s'incarne. C'est pas au nom d'une idée du bien. C'est au nom du meilleur, ce qui est absolument nouveau. Et là, on rejoint l'idée du baroque. Le baroque, pour Deleuze, finalement, il dit s'il fallait le saisir dans sa portée philosophique, au-delà des exemples artistiques, on aurait pu citer la musique aussi que j'évoquais, dans sa portée métaphysique, le baroque, c'est, dit Deleuze, l'ultime et presque folle proposition de, disons, sauvetage de la raison classique, sur fond de fin du monde. Il y a un monde qui s'écroule, tremblement de terre de Lisbonne, bon. Et donc une crise de la raison théologique. Hein. Et le baroque, ou une philosophie baroque telle que Leibniz la pratique, c'est l'ultime tentative pour reconstruire un monde en train de s'écrouler par tous les bords. Et donc, ce qui va nous sauver, ce n'est pas le bien, c'est le meilleur. Et le meilleur, c'est malgré tout une sorte de principe de continuité maximale. De continuité, mais c'est là qu'on rejoint le discontinu quand même, c'est à la fois maximalement continu, au sens où les séries se raccordent, les choses s'entre-expriment, se répondent.
À la façon dont des points qu'on tracerait, je mets l'expression entre guillemets, au hasard sur une feuille, correspondent à une fonction, à une courbe.
On trouvera toujours une courbe, aussi complexe soit-elle, qui passe par les points jetés au hasard sur une feuille. Hein, coup de dé, une constellation de points, on trouvera. Ça, c'est ça l'optimisme rationaliste de Leibniz, sur fond de fin du monde. On trouvera quand même, aussi complexe fut-elle, la courbe qui passe par eux tous. Mais, et donc on retrouve quand même une notion de discontinu, il faut en même temps, pas simplement que ce soit maximalement cohésif, consistant, raccordé, il ne faut pas simplement que ce soit maximalement dense et serré, il faut aussi que ce soit maximalement riche, et donc varié. Donc il y a un principe de variation qui est une conséquence immédiate du concept ou de l'image du pli. Le pli, c'est le pli qui va à l'infini. Ce n'est pas un pli. Un pli enveloppe toujours d'innombrables plis à l'infini. Et c'est ça qui fait que le monde est infiniment varié. Donc le meilleur des mondes possibles, c'est le monde maximalement dense, resserré, et en même temps qui promet le maximum de nouveautés.
Déploie à l'infini toute la matière dont il est capable.
Voilà. Et de progressivité, puisque l'idée, c'est que ça ne se déploie pas d'un seul coup. Alors peut-être du point de vue d'un entendement infini, celui de Dieu, mais tel qu'il est, le monde, il est en devenir. C'est un monde qui se fait.
Alors, pour présenter une expérience leibnizienne, c'est assez simple. Quand on va, puisque quand les chemins sont en direct, c'est à 10h du matin, il faut être à la radio très tôt. Et ouais. Donc, en général, je prends la voiture, et pardon de parler de moi, mais j'arrive vers 7h du matin à la radio. Expérience monadique, hein. On est dans sa voiture, fenêtre close, parce qu'en général il fait plutôt froid, donc fenêtre close, on se promène, et sentiment d'être une monade avec une intention qui n'appartient qu'à elle et qui ne fait que se déployer pour elle-même indifféremment du reste du monde. Et puis, il se trouve que France Culture se trouve au 6e étage de la maison de Radio France et que les matins, les longues matinées qui précèdent le direct que nous avons maintenant, Elie Düring, sont aussi l'occasion de temps en temps de faire une pause en regardant le panorama urbain de la ville, des carrefours, et notamment du carrefour qui est juste sous la maison de la radio quand elle fait face à la Seine. Et dans ce carrefour, il y a une infinité de voitures qui se succèdent, s'arrangent, qui se rendent compossibles les unes avec les autres, qui respectent les feux rouges pour laisser les autres passer, de sorte qu'on a toute une série de petites monades avec des individus à l'intérieur convaincus de ne faire que ce qu'ils doivent faire et que ce qui les concerne eux-mêmes. Et vu d'en haut, c'est-à-dire quand on a une vue synoptique, un peu globale de cet ensemble, autant que faire se peut quand on est au 6e étage, on a l'impression que derrière ces petites volontés indifférentes les unes aux autres, il y a un ordre souverain, en l'occurrence c'est la loi, un ordre souverain qui les agence. Là on est chez Leibniz.
Oui, ben ça, c'est un exemple complètement leibnizien, puisque Leibniz lui-même, dans un paragraphe fameux du discours de métaphysique, qui est repris dans divers autres textes, évoque la ville regardée de divers côtés, c'est-à-dire de divers points de vue, sous différents angles de coupe ou perspectives, et qui est néanmoins toujours la ville, la même, mais apparaissant à chaque point de vue de façon différente, sous des profils différents. Bon. La question de Leibniz, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à parler de la même ville ? Et vous voyez bien que l'analogie, en effet, elle est entre la ville et le monde. Nous avons tous, chaque monade a un point de vue sur l'univers, qu'il exprime à sa manière, en distinguant certains aspects, en maintenant d'autres à l'état enveloppé, impliqué, dans ce clapotis ou cette rumeur informe, vague, confuse, obscure. Mais néanmoins, et c'est ça le mystère de l'unité universelle, du nexus, la cohésion, la façon dont les choses se tiennent ensemble, c'est que néanmoins tout ça se répond. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident. Vous parliez de la ville et de la circulation en voiture, ça ne veut pas dire que deux perspectives automobilistes ne peuvent pas à un moment donné produire un accord dissonant. L'accident, bon, au carrefour, on brûle un feu, boum. Mais ça veut dire que même dans cet accident, il y aura encore, en quelque sorte, non pas coïncidence, mais convergence des perspectives.
Ça, c'est une autre difficulté de Leibniz, hein, naturellement. Nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire un monde qui, étant donné que Dieu ne pouvait que choisir celui-là, est également le seul monde possible, c'est-à-dire peut-être aussi le pire. Et un monde, en tout cas, dans lequel les accidents, Dieu garantissant la compossibilité, l'accord des monades entre elles, les accidents doivent être imputés au conducteur et non pas à Dieu.
C'est un monde où je ne dirais pas que c'est le pire, qui est aussi le pire. C'est un monde où il y a aussi le pire. Par exemple, les damnés. Pour basculer vers un exemple plus théologique, il y a toute une théorie de la damnation. Qu'est-ce que c'est que le damné chez Leibniz, qui est très étonnante. Et d'une certaine façon, le damné, c'est celui qui vit dans la haine de Dieu. Et qui, réduit...
Il vaut mieux être damné qu'avoir un accident de voiture. Hein. Allez-y.
Je sais. Oui, dans certains cas, en effet. Mais le damné, il est quand même réduit à un état assez misérable. C'est-à-dire qu'il est réduit, en quelque sorte, à une perception omniprésente, qui l'omnubile, qui est la haine de Dieu, dont il tire une jouissance profonde, mais extrêmement réduite. C'est-à-dire que l'amplitude de sa perception, de son champ perceptionnel, se limite effectivement à cultiver cette haine. Et d'une certaine façon, c'est ça le terrible chez Leibniz, c'est que le monde se construit sur le dos des damnés. Il faut qu'il y ait des damnés pour des gens éclairés. Il n'y aurait pas de monde avec des gens éclairés. Il n'y aurait pas de monde avec des âmes rationnelles qui jouissent de la contemplation des vérités s'il n'y avait pas par ailleurs des damnés qui sont en quelque sorte le dual ou la contrepartie de cette clarté.
Au fond, le malheur est une condition du meilleur des mondes possibles. Voir le mal, c'est mal voir. Toute chose dont on va parler quand on se concentrera sur la Théodicée jeudi prochain. Mais je voudrais quand même qu'on entende, parce que la Théodicée est un texte étourdissant et qu'on n'aura pas fini de citer ou d'évoquer aujourd'hui. La Théodicée est un texte étourdissant qui donne un peu le sentiment d'être, d'affirmer le désir d'une bibliothèque où seraient contenues toutes les histoires. Puisqu'au fond, il y a une infinité de mondes possibles. Dieu ne peut, selon Leibniz, que choisir le meilleur d'entre eux. Reste à savoir ce qu'il y a de contraignant derrière une si parfaite liberté. Mais plutôt qu'aborder cette question aujourd'hui avec vous, il faut s'attarder un instant sur l'ampleur, la vastitude, l'immensité indéfinie d'une telle bibliothèque, telle que Leibniz, par exemple, l'a décrit, telle que Borges pourra ensuite s'en inspirer pour parler de la bibliothèque de Babel. Leibniz en parle à la fin de la Théodicée dans le texte que vous allez entendre maintenant.
La déesse mena Théodore dans un des appartements. Quand il y fut, ce n'était plus un appartement, c'était un monde. Les appartements allaient en pyramide. Ils devenaient toujours plus beaux à mesure qu'on montait vers la pointe et ils représentaient de plus beaux mondes. On vint enfin dans le suprême qui terminait la pyramide et qui était le plus beau de tous. Car la pyramide avait un commencement, mais on n'en voyait point la fin. Elle avait une pointe, mais point de base. Elle allait croissant à l'infini. C'est comme la déesse l'expliqua, parce qu'entre une infinité de mondes possibles, il y a le meilleur de tous. Autrement, Dieu ne se serait point déterminé à en créer aucun. Mais il n'y en a aucun qui n'en ait encore de moins parfait au-dessous de lui. C'est pourquoi la pyramide descend à l'infini. Théodore, entrant dans cet appartement suprême, se trouva ravi en extase. Il lui fallut le secours de la déesse. Une goutte d'une liqueur divine mise sur la langue le remit. Il ne se sentait pas de joie. « Nous sommes dans le vrai monde actuel, » dit la déesse, « et vous y êtes à la source du bonheur. »
Voilà ce que Jupiter vous y prépare, si vous continuez de le servir fidèlement. Voici Sextus, tel qu'il est et tel qu'il sera actuellement. Il sort du temple tout en colère, il méprise le conseil des dieux. Vous le voyez allant à Rome, mettant tout en désordre, violant la femme de son ami. Le voilà chassé avec son père, battu, malheureux. Si Jupiter avait pris ici un Sextus heureux à Corinthe, ou roi en Thrace, ce ne serait plus ce monde. Et cependant, il ne pouvait manquer de choisir ce monde, qui surpasse en perfection tous les autres, qui fait la pointe de la pyramide. Autrement, Jupiter aurait renoncé à sa sagesse. Il m'aurait banni, moi qui suis sa fille. Vous voyez que mon père n'a point fait Sextus méchant, c'est Athéna qui parle. Il l'était de toute éternité, il l'était toujours librement. Il n'a fait que lui accorder l'existence que sa sagesse ne pouvait refuser au monde où il est compris. Il l'a fait passer de la région des possibles à celle des êtres actuels. Le crime de Sextus sert à de grandes choses. Il en naîtra un grand empire qui donnera de grands exemples. Mais cela n'est rien au prix du total de ce monde dont vous admirerez la beauté lorsqu'après un heureux passage de cet état mortel à un autre meilleur, les dieux vous auront rendu capable de le connaître. Elie Düring, Leibniz, c'est peut-être le plus écrivain des philosophes en ce sens. Il laisse ouverte la possibilité proprement littéraire, romanesque, d'une invention, mais par l'écrivain cette fois-ci, de tous les mondes où ce qui se passe ici ne se passe pas, où les choses se passent différemment, où vous prenez un autre carrefour, vous faites d'autres études, vous êtes quelqu'un d'autre, tout en portant peut-être le même nom.
Oui, non, c'est un très beau passage.
Sextus, ici, peut avoir toutes les vies possibles. Ça peut plus ou moins bien se passer. Sauf que la vie qu'il a est forcément la plus nécessaire au meilleur des mondes possibles.
Oui, c'est vraiment le type même de la fiction baroque, hein, qui évoque d'ailleurs d'autres références, Borges, le jardin au sentier qui bifurque, et peut-être dans la littérature de science-fiction plus récente, moi je pense au Maître du Haut-Château de Philip K. Dick. On a deux possibles qui coexistent curieusement.
Deux histoires.
Deux histoires du monde. Hein. Qui serait bon, le monde où
les Allemands ont gagné.
Où les Allemands ont gagné, et celui qui est en principe le nôtre. En est-on sûr, où les alliés ont gagné. Bon, en effet, l'idée est là, c'est que la déesse Pallas, faisant visiter le palais des destinées à Théodore, met en scène, en quelque sorte, c'est Jupiter qui a conçu tout ça, met en scène la pluralité, l'infinie diversité des mondes possibles. Et ce qui est intéressant dans la fiction, à chaque fois qu'on ouvre une porte, en effet, on voit une trajectoire, on voit un chemin d'action possible, une série, dit Deleuze, en reprenant quasiment le terme mathématique. Et l'affaire, finalement, la question, la seule question qui vaille, pour comprendre notre situation, pour comprendre la nécessité de ce monde où nous sommes, qui se trouve être un monde parmi une infinité de possibles, c'est de savoir comment les séries se raccordent. Et ce que fait Pallas, c'est simplement de montrer ça. Voyez cette série, Sextus, bon, viole la femme de son ami, etc. Il y a un autre exemple célèbre. Bon, il y a le monde, on peut imaginer un monde où Adam n'aurait pas été pêcheur, le monde où Adam n'aurait pas péché. Et je crois que ce qu'il y a, l'enseignement, la leçon philosophique derrière tout ça, outre le fait que c'est une mise en scène splendide de la diversité des mondes possibles, tels que l'entendement divin pour infiniment calculateur pour les concevoir, je crois que l'enseignement, c'est que on ne peut pas envisager sérieusement, en toute rigueur, un cours d'action ou même une substance donnée, que ce soit Sextus ou Adam, indépendamment du monde qu'elle développe en elle. Deleuze dit ça très bien, il dit « Dieu ne crée pas Adam pour ensuite le laisser à sa liberté et bon, constater qu'il pêche pour le meilleur ou pour le pire. » Non, Dieu crée le monde où Adam a péché, aura péché.
Et Adam de sorte enveloppe que Leibniz dit à la fois que Dieu est créateur de tout, tout en ménageant la responsabilité de l'homme.
Hein, voilà, alors ça c'est la difficile, la très complexe question de comment concilier cette affaire d'un Dieu, d'un entendement infini, calculateur, et de la liberté humaine.
Et puis pourquoi agir, surtout si Dieu fait tout? Mais ça c'est une question qui se pose dès le début de la Théodicée d'ailleurs. Hein.
On ne va pas la résoudre ici, mais non. C'est juste une piste, c'est que le pli est la bonne métaphore là encore, puisque le pli c'est aussi le pli de l'âme, l'âme prend des plis. L'âme se plie, c'est la théorie de l'inclination ou de l'inflexion. C'est à partir de là qu'on peut résoudre, d'une façon très proche de Bergson en l'occurrence, le problème de la liberté. C'est-à-dire la liberté elle doit être elle-même pensée selon le pli, c'est-à-dire selon l'amplitude qu'on donne à son âme en accompagnant des tendances qui sont déjà frayantes en nous, mais pas sur le mode d'un déterminisme. Justement.
Pour revenir à Proust, dans La Prisonnière, le narrateur de La Recherche du Temps Perdu se sépare, ou en tout cas veut se séparer d'Albertine. Mais en fait, il lui joue la comédie de la séparation pour finalement lui proposer de rester encore quelques semaines. À l'instant, évidemment, où il la congédie, il veut qu'elle reste. Oui. Toute la douleur de l'amoureux se trouve là. Et le narrateur déploie les raisons de se séparer. Et plus il en parle, plus ça le chagrine. Ce qui, au départ, n'était qu'une comédie, finit tellement par le contaminer qu'il devient véritablement triste. Il est attristé. C'est comme si, effectivement, son âme ou son cœur, en l'occurrence, prenait le pli qu'il avait d'abord choisi de feindre.
Oui, c'est que la question des motifs, qui est une des grandes questions que traite Leibniz quand il s'intéresse au processus dit délibératif, hein, pour reprendre l'expression aristotélicienne. On délibère, on soupèse les motifs et on se représente un peu la liberté comme ça, comme capacité de choix un peu arbitraire, puisqu'il ne faut pas être déterminé, entre de plusieurs motifs concurrents. Et Leibniz montre que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, il ne faut pas concevoir les motifs comme des sortes d'états ou de dispositions.
Les motifs en deux mots. Hein.
Les motifs.
Oui.
Ah, on peut aussi penser les motifs en un mot, oui, en effet. Non, les motifs ne sont pas des choses, ne sont pas des états statiques entre lesquels il faudrait arbitrer et qui nous détermineraient, ou par lesquels on se déterminerait, ce qui est une contradiction dans les termes, pour ceci ou pour cela. Dans le cas d'Albertine, de cet épisode que vous rappeliez, c'est très clair. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'en considérant, en entretenant imaginairement des motifs, en s'imaginant qu'ils pourraient...
Voilà, en se représentant le monde où ils ne sont plus ensemble, d'ailleurs.
Voilà, absolument. Ils se représentent en fait un monde possible, le monde où ils seraient séparés. Et en fait, on s'aperçoit qu'en faisant ça, c'est un processus dynamique qui s'enclenche, le motif se transforme. D'abord, il se cristallise et puis, à un moment donné, il passe dans un régime affectif qui fait que, d'une certaine façon, les problèmes se posent tout autrement. Alors, il prend une densité, un caractère très concret qui l'amène à d'autres décisions. Mais ce que ça montre très bien, c'est qu'en réalité, on n'arbitre jamais entre des motifs. C'est le mouvement de l'âme qu'il faut comprendre. Et ce mouvement de l'âme, il est en fait une sorte de variation continue. Et c'est ça qui peut nous faire échapper au dilemme, en fait, insurmontable tel qu'il est posé, entre déterminisme et liberté.
Difficulté supplémentaire, d'ailleurs, hein, puisque chez Leibniz, on fait de Leibniz, d'ailleurs aussi à bon droit, un déterministe, dans la mesure où, on le verra avec le discours de métaphysique, demain, avec Jean-Baptiste Rosy, le discours de métaphysique décrit le déploiement de l'essence que chaque individu est, au point de dire qu'il était contenu dans l'essence de César, qu'il franchirait le Rubicon.
Bien sûr.
Qu'il le franchirait librement. Voilà, ce qui est quand même un paradoxe. C'est comme MacMahon, hein. Vous voterez pour les candidats que je recommande à vos libres suffrages. Le problème étant évidemment de voir qu'il y a aussi cette question du pli où on aurait presque paradoxalement une sorte d'existentialisme leibnizien, c'est-à-dire où la décision de la séparation serait productrice elle-même de la tristesse qu'elle invoque pourtant à l'appui de la décision. On reviendra là-dessus. En revanche, chez Leibniz, il y a, vous avez parlé tout à l'heure de la mémoire du passé qui était aussi une mémoire de l'avenir. Est-ce que Leibniz n'est pas le philosophe, il y a des philosophes pour tous les moments de la vie, est-ce que Leibniz n'est pas le philosophe pour ceux qui n'ont pas fini de faire leur deuil, au fond ? C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore accepté que telle voie était prise à l'exclusion des autres, que telle trajectoire dans la vie était prise à l'exclusion de toutes celles qu'elle révoque, tout simplement. Est-ce qu'au fond, la lecture de Leibniz ne laisse pas comme un rêve planer la possibilité d'un monde possible, le fantasme de revenir en arrière, de tourner à gauche plutôt qu'à droite. Bref, est-ce que Leibniz n'est pas le penseur d'un regret non digéré ?
Oui, je crois que c'est en effet une tonalité affective qu'on pourrait associer à Leibniz. Mais pas sur le mode chagrin. Moi, je vois ça plutôt en effet comme quelque chose d'un peu hallucinatoire. C'est un état de rêverie. Deleuze parle d'une rêverie métaphysique à propos de Leibniz, qui a souvent de drôles de pensées, hein, c'est une de ses expressions. Là, la drôle de pensée qui parcourt tout son système, c'est en effet que d'une certaine façon, cette prolifération des possibles, elle n'est pas simplement réservée à cette espèce de moment théologique où Dieu, l'entendement calculateur infini, passe en revue synoptiquement tous les mondes possibles. C'est qu'à chaque instant de ce monde-ci, de notre vie, de notre trajectoire dans ce monde-ci, eh bien, on peut bifurquer. Et en fait, en pratique, tout bifurque à tout instant, pli selon pli, c'est-à-dire que c'est ce principe de variation continue. À chaque instant, les choses se transforment du fait simplement qu'elles durent. Alors là, il y aurait quelque chose à dire sur la temporalité chez Leibniz, en effet. C'est que tout ça participe aussi à la conception d'un univers en flux. Et c'est pas du tout l'image scolaire d'un monde qui serait déterminé d'avance, dont tous les événements seraient en quelque sorte fixés. Bon, c'est vrai du point de vue de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Donc voilà, c'est
depuis ça. Le début de cette émission, Elie Düring, on s'était mis d'accord dessus avant. Et puis d'abord, c'est le principe des nouveaux chemins de façon générale. On s'est mis d'accord sur un point de départ et ensuite on a laissé la conversation digresser librement. Ouais. Il y aurait donc une fonction qui pourrait résoudre les différents points de cette conversation, de sorte qu'on pourrait rétroactivement découvrir à la conversation qu'on vient d'avoir et qu'on n'avait pas prévu un ordre souterrain dont elle serait l'édifice provisoire.
Il faudrait un entendement infini ou quasi infini comme celui de Michel Fichan qui parlera dans quelques jours, qui nous expliquerait comment raccorder tout ça dans la cohérence. Mais en effet, là, on bifurque à chaque instant.
Et donc, rigoureusement, mais également au hasard. Reste à savoir quelle est la place du hasard chez Leibniz. On aura l'occasion d'en reparler cette semaine. On a commencé avec Deleuze, on va finir sur un texte de Deleuze qui revient sur une nouvelle de Borges, justement, extrait de fiction, Le jardin au sentier qui bifurque. Deleuze dit ceci: on appelle bifurcation un point comme la sortie du temple, au voisinage duquel les séries divergent. Un disciple de Leibniz, Borges, invoquait un philosophe architecte chinois, Cui Pen, inventeur du jardin au sentier qui bifurque, labyrinthe baroque dont les séries infinies convergent ou divergent et qui forme une trame de temps embrassant toutes les possibilités. Fang, par exemple, détient un secret. Un inconnu frappe à sa porte. Fang décide de le tuer. Naturellement, il y a plusieurs dénouements possibles. Fang peut tuer l'intrus, l'intrus peut tuer Fang, tous deux peuvent réchapper, tous deux peuvent mourir, etc. Dans l'ouvrage de Cui Pen, tous les dénouements se produisent, chacun est le point de départ d'autres bifurcations.
<t'->
Merci d'être venu nous voir, Élie Düring. Vous êtes le bienvenu sur les nouveaux chemins. Je rappelle, tiens, à nos auditeurs, on retrouvera ça en ligne, que vous avez co-dirigé le numéro de la revue critique intitulé « À quoi pense l'art contemporain ?», un numéro qui sera fort utile la semaine prochaine. Je vous dirai pourquoi. Le pli, Leibniz et le baroque, c'est de Gilles Deleuze, c'est aux éditions de Minuit, c'est tellement difficile que c'en est de la poésie. Quant à Leibniz, évidemment, je vous renvoie à notre site internet, vous aurez toutes les références bibliographiques et les éditions différentes de la monadologie, du discours de métaphysique, notamment annoté et introduit par Michel Fichan, mais également Jean-Baptiste Rosy, qu'on retrouvera demain pour parler donc du discours de métaphysique. Pour l'heure, il est 10h50 sur France Culture et on va rester dans l'événement justement avec Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Vous allez donc nous parler d'événements, la renaissance de l'événement.
Et voilà, on passe du baroque à la renaissance, donc non pas la période historique mais la renaissance de l'événement, puisque c'est le titre d'un essai de François Doss qui vient tout juste de sortir au PUF. Bonjour François Doss.
Bonjour.
Le titre de votre livre, le titre complet de votre livre, c'est « Renaissance de l'événement, un défi pour l'historien entre Sphinx et Phénix ». Donc je ne résiste pas au plaisir de le dire à voix haute, ne serait-ce que pour l'assonance finale entre Sphinx et Phénix. Alors pourquoi « Renaissance de l'événement » François Doss ? Est-ce que l'événement avait disparu puisqu'il renaît ?
D'une certaine manière, oui. Dans les sciences humaines, Braudel disait, vous savez, l'événement est l'ennemi de la science sociale. L'ennemi de la science sociale parce que les sciences sociales, depuis le défi durkheimien du début du XXe siècle, cherchaient des lois, des invariants. On en est arrivé d'ailleurs à la leçon inaugurale de Le Roi Ladurie en 73, qui s'appelait « L'histoire immobile ». Donc il fallait tordre le cou à l'événement qui était trop aléatoire par rapport à des choses qui étaient une ambition nomologique de la part des sciences sociales, de trouver des lois, des répétitions. Et c'est sûr que l'engouement structuraliste, par exemple, d'un Claude Lévi-Strauss trouvant la prohibition de l'inceste comme un invariant universel, a été un engouement extraordinaire de toutes les sciences humaines pour éluder, effacer, refouler l'événement. D'une autre manière, on peut dire que dans le passé plus lointain que les sciences humaines, l'événement a toujours été pris dans une philosophie de l'histoire. Au XIXe siècle, bien sûr, c'est le siècle de l'histoire et de la philosophie de l'histoire, mais bien avant aussi, dans toute chronosophie, dans un sens qui est un sens toujours téléologique, fléché, où l'événement est déjà là, il ne fait qu'accomplir quelque chose qui a une direction, quelle que soit la direction, d'ailleurs, en fonction du temps, de l'Antiquité, de l'époque moderne, etc. Or, il me semble que nous sommes rentrés dans ce que François Hartog appelle justement un nouveau régime d'historicité, à une conception, une approche différente de l'événement, un rapport à l'événement extrêmement différent dans notre société. Et au point que nous en sommes à une événementialisation du sens général et pas seulement chez les historiens.
Mais pourtant, vous parlez de renaissance de l'événement. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Ce rapport à l'histoire n'est pas nouveau. Il a déjà eu lieu.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pris ce terme renaissance pour éviter le terme « retour », parce que ce n'est pas, comme dit Deleuze, le retour du même. Ça aurait donné une confusion là, sur le retour de l'événementialité telle qu'on la concevait, par exemple, dans l'école méthodique, Seignobos, Lavis, etc., au XIXe siècle. Ce n'est pas cela. Il y a quelque chose de nouveau, de déplacé, de différent, pour reprendre encore un terme deleuzien, de différent dans la manière dont on appréhende aujourd'hui l'événement, pour nous historiens, mais aussi pour les sciences humaines en général.
Donc dans le terme d'événement, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on entend dans le terme événement la notion de surprise, d'imprévu. Or, étymologiquement, l'événement, c'est tout simplement ce qui arrive.
Oui, alors la définition même étymologique du terme a sensiblement évolué entre une première définition de simplement ce qui arrive et ensuite de l'exceptionnalité de ce qui, justement, n'était pas programmé et qui a un effet surprise. Cela dit, cet effet surprise est en effet le défi qui est lancé aux historiens. Défi auquel ils ont essayé de répondre jusque-là par une réponse déterministe, c'est-à-dire en rabattant l'événement sur une série de causalités.
Oui, parce que l'effet de surprise, c'est ce qui le rend difficile à comprendre, à saisir
par la rationalité. Vous avez Sarajevo, mort de l'archiduc François Ferdinand. Eh bien, une leçon d'histoire classique, c'est les causes profondes, les causes immédiates, et votre événement, il était quasiment programmé. Donc, ce n'est plus une surprise, il devient ce qui arrive. Bon, tout simplement, avec des effets terribles. Aujourd'hui, quand l'historien fait cela, il ne fait qu'une toute petite partie de son travail. Car il me semble-t-il, et c'est là où il y a quelque chose de très suggestif dans cette renaissance de l'événement, c'est que l'événement n'est pas réductible à ses déterminations. Il ouvre des possibles, comme dirait Deleuze, des devenirs, et différents que l'on ne peut pas soupçonner. Et il change non seulement, il va pouvoir ressurgir, mais il change le passé. C'est-à-dire que dans la dialectique passé-présent-devenir, l'événement va reconfigurer complètement notre rapport au passé.
Vous venez d'expliquer, de déplier la deuxième partie du titre entre Sphinx et Phénix, puisque d'un côté, l'événement est Sphinx, c'est-à-dire qu'il reste mystérieux et insaisissable absolument par la raison humaine. D'un autre côté, il est Phénix, c'est-à-dire qu'il n'est jamais totalement terminé.
Tout à fait. Il y a là des choses qui sont prises en compte aujourd'hui par les historiens, comme les réflexions des philosophes, celles de Deleuze entre autres, mais celles aussi de Paul Ricoeur et de bien d'autres, et puis de la psychanalyse, de la théorie de l'après-coup, et donc d'une complexification finalement du mode de fonctionnement de l'événement, d'une délinéarisation, d'une prolifération du sens qui ne peut pas être postulée, et d'une attention à la fabrication de l'événement, à son émergence. Je pense là à un texte tout à fait fondamental pour nous historiens, qui est le texte de Pierre Nora, qui date de 72, qu'il a repris en 74, sur l'événement monstre, l'événement, le retour de l'événement, où il analysait justement ce qu'il voyait du haut de son balcon à l'époque du boulevard Saint-Germain, Saint-Michel, pardon, qui étaient les manifestations de mai 68. Et il était à côté du reporter d'Europe 1 qui faisait du direct toutes les 10 minutes sur les affrontements. Et il se posait en historien la question de la répercussion dans la Creuse profonde de cet événement parisien. Et se disait, mais il y a là une fabrication de l'événement qui est consubstantielle à ce qu'est l'événement. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas établir une relation d'extériorité, d'ailleurs, entre les médias d'un côté, qui sont souvent dénoncés pour, etc., manipuler l'événement. Non, ils le fabriquent aujourd'hui dans la société moderne.
Vous venez de dire quelque chose de fondamental sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, à savoir que l'événement n'est jamais un simple donné, mais une construction. Merci beaucoup, François Dos. Donc, le titre de votre livre, je le répète à nouveau, c'est « Renaissance de l'événement, un défi pour l'historien entre Sphinx et Phénix ». Et on trouve ça au PUF.
Et Baudelaire, pour finir.
Et oui, on avait parlé de Baudelaire la semaine dernière dans Les Nouveaux Chemins avec Jacques Dariula à propos de la confiture verte. Là, c'est un essai du philosophe André Hirt qui a pour titre une phrase de Baudelaire lui-même « Le monde va finir ». En écrivant cette formule, le poète des temps modernes se fait philosophe et énonce à la fois un constat, une conclusion et une prophétie. Mais alors que nous annonce au juste Baudelaire lorsqu'il écrit que le monde va finir ? De quel monde parle-t-il ? Est-ce l'histoire avec un grand H ou bien la poésie, cet autre temps pour l'existence ? C'est une lecture très originale de Baudelaire que nous propose ici André Hirt, puisqu'au gré de sa lecture des Fleurs du Mal, il rencontre l'idée de fin chez Kant, Hannah Arendt et la culture, Walter Benjamin sur le messianisme. C'est donc un Baudelaire autant poète que philosophe que nous propose cet essai, qui vise entièrement à montrer que Baudelaire est l'un des plus grands penseurs de notre temps présent. Ça s'appelle Baudelaire, Le monde va finir, c'est par André Hirt et on trouve ça aux éditions Quimet.
C'est bien d'ailleurs parce que André Hirt poétise Descartes et il philosophise Baudelaire, ça va dans les deux sens, c'est du bon boulot. Du pli à l'événement, de la pyramide au sphinx et du sphinx au phénix, c'était l'aventure du jour, merci à tous. Retrouvez cette émission sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous pouvez évidemment télécharger toutes les émissions de la semaine, écouter en ligne toutes les émissions du mois et retrouver une bibliographie où vous trouverez notamment les ouvrages de François Dos, d'André Hirt, d'Elie Düring et de Leibniz. Suite demain de cette semaine sur Leibniz, justement, on parlera de l'extraordinaire discours de métaphysique, le texte peut-être le plus accessible pour le lecteur profane de Leibniz. On en parlera avec Jean-Baptiste Rosy, qui en assurait l'introduction et la préface et les notes chez Agora. Demain, il sera aussi question de Paul Valéry dans le journal des Nouveaux Chemins.